temptress. Through the ages she's heading west. From far away, stays for a day. Never a frown with golden brown.
Tranche de vie. Vagabondage sans prétention dans nos existences. Dans le cloître du musée d'art et d'archéologie du Périgord, nous sommes aujourd'hui en présence de Mathieu Fonroc, qui travaille temporairement dans ce musée et qui a accepté de nous parler et de son expérience et de ses études et de ce musée. Mathieu, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté cette invitation.
C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à participer à votre émission.
Est-ce que vous pouvez dire à nos éditeurs comment vous êtes arrivé ici à travailler, si j'ai bien compris, à faire ce job d'été recherché par tous les étudiants ici au musée d'art et d'archéologie du Périgord?
Eh bien, j'ai la chance de faire des études d'histoire de l'art, donc m'intéresser à faire l'histoire, voilà, l'étude d'histoire de l'art. Qu'est-ce que mieux qu'un musée pour continuer à être à baigner dans ce monde de culture, de patrimoine, d'art?
Maintenant, on vient d'apprendre que vous faisiez des études d'histoire de l'art, donc vous étiez tout désigné pour faire ce travail. Quel est votre travail exactement au musée pendant cet été?
Alors, ici, je suis principalement cet été à l'accueil et en surveillance de salles. Mais bon, voilà, il m'arrive de répondre aux sollicitations et aux questions de certains visiteurs à propos d'œuvres ou même du musée et de son architecture.
Je vais vous poser une question qui pourrait être perfide, mais est-ce que vous connaissiez bien le musée avant d'y travailler?
Oui, bien sûr, j'avais déjà eu l'occasion de le visiter. Ça fait partie intégrante de mon cursus, l'obligation de visiter les musées, les châteaux, constamment vouloir enrichir cette culture.
Votre vocation d'étudiant en histoire de l'art, vous pensez qu'elle vient de là, ou qu'elle vient d'une familiarité que vous avez eue avec tous les magnifiques édifices que recèle le Périgord?
Je pense que j'ai toujours aimé déjà l'histoire. Et l'art, eh bien, c'est en visitant les musées. Hein, pour l'histoire, on peut le toucher du doigt en visitant les musées. Et les musées regorgent de peintures historiques qui racontent des faits historiques. Mais aussi, voilà, les châteaux, des lieux historiques qui regorgent également de peintures artistiques, de véritables œuvres d'art un peu partout, et ça m'a toujours attiré.
Donc il n'y a pas de meilleure introduction à l'art sous toutes ses formes que des musées?
Non, il y a aussi...
Qu'il soit généraliste comme celui du Périgord, ou qu'il soit spécialisé comme il en existe et que vous avez visiter.
Vézona, par exemple, est un musée spécialisé, mais on peut se familiariser avec l'art de différentes façons. Il y a différentes formes d'art, aussi bien cinématographique, musical, littéraire même. Donc on peut très bien découvrir l'art à travers des livres, la bibliothèque, d'aller au cinéma.
Vous avez des goûts déjà affirmés dans les arts que vous côtoyez quotidiennement et que vous allez côtoyer dans vos études, dans votre métier?
Bien sûr, on a...
Qu'est-ce qui vous attire?
Bien sûr, on a tous nos goûts, nos centres d'intérêt. Moi, j'apprécie particulièrement l'art médiéval, d'une part, et l'art du XVIIIe siècle, notamment le mobilier, les arts décoratifs, que ce soit porcelaine, mobilier, bijouterie aussi.
C'est une sorte de grand écart quand même, hein, parce que du Moyen-Âge au XVIIIe siècle...
Oui, il y a un grand écart, mais en même temps, tout est relié. Dans ces deux siècles, il y a un fantasme de l'antique. Le Moyen-Âge revisite constamment l'Antiquité, et le XVIIIe siècle, avec le néoclassicisme à la fin, revisite également l'Antiquité. Et dans ces deux périodes, il y a également une volonté de s'émanciper de ce style antique, de ces colonnes, avec le style gothique qui s'élance, ou le style rocaille au XVIIIe siècle qui foisonne de...
Et puis les peintres de ruines.
Oui, bien sûr.
En attendant qu'au XIXe siècle, on redécouvre le Moyen-Âge.
Tout à fait.
Vos études d'histoire de l'art, vous les faites où ? À Bordeaux, à Limoges à...
Non, alors j'étudie l'histoire de l'art à Poitiers. Je n'ai pas voulu Bordeaux, c'était clair dans mon esprit. Et Poitiers, parce qu'il y a le CESCM, donc le Centre d'études supérieures des civilisations médiévales. Et j'avais choisi Poitiers également parce qu'il y avait des professeurs de l'école du Louvre. Et je voulais aller justement, je voulais intégrer à l'origine cette école. Bon, je n'ai pas été pris au concours, mais il me semblait que Poitiers était un bon tremplin pour retenter le concours l'année suivante. Et finalement, ben, je m'y suis plus et j'y suis resté.
Et vous allez retenter le concours de l'école du Louvre ? Non ?
Non, non, non.
Mais vous allez peut-être la fréquenter, puisqu'on peut la fréquenter en auditeur libre.
Oui, oui, bien sûr. Bon, le problème, c'est qu'il faut réserver à l'avance ou se présenter une heure avant pour avoir des places. Mais bon, j'ai déjà tenté d'y assister à ces cours libres.
Qu'est-ce qui fait l'intérêt du musée d'art et d'archéologie du Périgord, qui, rappelons-le à nos auditeurs, est quand même une institution qui a maintenant presque bientôt 200 ans ?
Ben, ça va être une réponse qui va être valable pour tous les musées. Tous les musées regorgent de petits chefs-d'œuvre ou de grands chefs-d'œuvre méconnus, souvent méprisés parce que leurs auteurs sont peu connus. Mais chaque musée a ses œuvres pleines de charme, d'une sensibilité. Ici, moi, j'adore une sculpture de Jeanne Pouplet, l'enterrement d'un enfant. Cette sculpture est en plâtre, donc un matériau qui n'est pas forcément noble, mais qui porte toute une sensibilité. Déjà le titre, l'enterrement d'un enfant, tout en retenue. Voilà, c'est une discrétion, une sobriété. On ne voit presque pas le cercueil de l'enfant. Ce qui rend la scène encore plus douce, sans le grand pathos tragique.
En dehors de l'enterrement d'un enfant, il y a quand même énormément de choses formidables dans ce musée. Est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs ce qui fait vraiment son originalité ?
Alors, son originalité tient au fait qu'il couvre à peu près toutes les périodes de l'Antiquité avec... quelques vestiges.
Bien avant l'Antiquité, même.
Antique, oui, bien sûr, et préhistorique, oui. Il y a deux salles dédiées aux arts préhistoriques, avec tout ce qui est silex, os sculptés, gravés, qui est vraiment assez intéressant. Et c'est curieux de se dire que ces hommes, sans nos techniques aujourd'hui, arrivaient à faire des choses aussi fines.
C'est à la fois un musée d'art, puisque, comme vous dites, il y a des os gravés très finement et d'une manière très expressive, enfin, qui rappellent un petit peu les fameuses grottes dont notre département est détenteur, mais aussi toute la technique lithique. Pendant plusieurs centaines de milliers d'années, les gens ont affiné ces techniques de la taille des pierres. Pour moi, qui suis un profane, ce qui fait l'originalité de ce musée, c'est aussi tous les apports qui ont été faits par des voyageurs périgourdins. Et à ce propos-là, justement, en ce moment, il y a une exposition, les apports et les dons d'un de ces voyageurs. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors oui, le musée de Périgueux bénéficie de la 7e collection française d'ethnographie africaine et océanienne. Et une partie de ces dons vient d'Alphonse de Flérieux, qui est célébré dans... C'est une exposition, Les voyages d'Alphonse, au musée de Périgueux.
Sur l'année ou sur la saison estivale seulement, cette exposition ?
Sans doute elle a été décalée à cause du Covid, mais là je n'ai plus les dates en tête.
Est-ce que ce genre d'exposition temporaire ou un peu spécialisée, est-ce que c'est quelque chose qui revient régulièrement au musée, à votre connaissance ?
Oui, bien sûr. Un musée propose à la fois une collection... permanente, mais propose également des expositions temporaires. Ça fait vivre le musée, ça permet de renouveler et puis de faire participer aux questionnements de société. C'est le but un peu d'un musée, c'est de présenter des choses du passé, mais également l'interroger sur les convergences anciennes et contemporaines de l'art.
En dehors de ça, vous avez évoqué tout à l'heure une sculpture qui vous touche et qui vous émeut particulièrement. Qu'est-ce qui fait la richesse des collections du musée d'art et d'archéologie du Périgord? Il y a quand même un musée lapidaire important. On est là dans un cadre, on est entouré de vieilles pierres, entourées de vieilles pierres qui soient de l'époque de l'Antiquité gallo-romaine ou du Moyen-Âge ou plus tard. Et donc, est-ce que ça fait partie aussi de la richesse de ce musée ?
Bien sûr, dans tout musée, il y a ce genre d'objets, mais ici, voilà, elles sont un petit peu exposées, présentées comme une réserve, pas l'espace, pas l'état naturel, brisé par le temps, par les affres des différents conflits qu'a pu traverser le Périgord.
Sauf qu'ici, quand même, c'est moins mis en valeur et, bon, et ça souffre un petit peu de cette accumulation autour de cette cour.
Le but de cette cour, à l'origine, était de présenter les œuvres comme une réserve lapidaire voilà, du musée. Et c'était de les présenter voilà, comme des réserves. Bon, après, voilà, c'est une muséographie datée.
Est-ce que ce musée manque de place ? En particulier, justement, pour cette collection lapidaire.
Vous demanderez ça à n'importe quel personnel de musée, tout le monde vous dira que le musée manque de place. On a toujours besoin de plus d'espace pour exposer encore plus de choses, pour présenter encore plus d'objets, plus d'œuvres. Si ça ne tenait qu'à nous, toutes les œuvres qui seraient en réserve seraient exposées partout. Bon, bien sûr, pas forcément comme au XIXe siècle, mais donc cela nécessite des espaces beaucoup plus grands, beaucoup plus lumineux. Mais bon, c'est impossible, on ne peut pas tout présenter et tout n'est pas présentable non plus.
Justement, à propos des peintures et du mobilier, qu'est-ce que vous avez à dire ? Quelles remarques avez-vous à faire ? Est-ce que là aussi, c'est un secteur qui est une section qui est digne d'intérêt au musée d'art et d'archéologie du Périgord ?
C'est une section qui, pour moi, les arts décoratifs, est toujours négligée à mon goût. Il y a beaucoup de musées d'art décoratif qui les présentent, mais en dehors de ces musées spécialisés, c'est souvent quelque chose qui sert de support, qui accompagne des œuvres, mais jamais totalement présenté en elle-même. Ici, nous avons la chance de pouvoir présenter une console Louis XV, magnifique, avec son miroir, totalement représentative du style rocaille, et également deux secrétaires Louis XVI, ainsi que deux commode de régence également, et dans une salle à côté, quelques meubles de style empire, donc aussi bien des copies du XXe siècle et deux originaux également.
En peinture, il y a des choses vraiment saillantes et des choses qui méritent vraiment le détour.
Bien sûr, bon, dans chaque musée, comme je le disais, il y a des œuvres à voir, et ici, le musée, pour moi, une œuvre qui est digne d'intérêt, particulièrement, il faut s'arrêter, regarder l'extraction de la pierre de folie, une œuvre flamande, donc tout à fait curieuse. On y voit une sorte de chirurgien, comme il pouvait s'en faire au XVIIe siècle, au XVIe et XVIIe siècle, qui va pour faire une trépanation d'un fou, soi-disant. L'œuvre est un petit peu critique en même temps de cette pratique qui n'a jamais porté ses fruits. Hein.
Est-ce qu'on n'a jamais trouvé la pierre ?
Oui, bon, la pierre, on la trouve, on la trouve pas. Hein. Là, c'est quand on cherche, on trouve toujours quelque chose qui va pas. Mais bon, c'est pas une pratique anodine. La médecine et la chirurgie ne sont pas des pratiques anodines, voilà. Donc c'est une œuvre assez curieuse qu'il faut voir.
De quel du 17e, début du 17e
Dans mon souvenir, elle est du 16e ou du début du 17e siècle. Mais après, bon, c'est un type d'œuvre qui est assez récurrent dans l'art des écoles du Nord.
Maintenant, si vous voulez bien, on va parler un petit peu de l'avenir. Mais d'abord, j'aimerais vous interroger sur ce que vous avez pu remarquer pendant votre séjour au musée, sur la fréquentation et en le mettant en perspective avec la période un petit peu troublée et difficile que nous traversons depuis plusieurs années. Est-ce que vous avez vu beaucoup de touristes ? Est-ce que vous avez vu une fréquentation ? Ou est-ce que vous avez entendu dire par les permanents du musée qu'il y avait des différences dans la fréquentation du musée ?
Alors, je me suis interrogé également sur cette fréquentation. Et bien, il s'avère que, bon, il y a moins de touristes étrangers, ça c'est certain. Notamment les Anglais qui n'ont pas été très présents pour le moment cette année. Bon, après, on manque de recul également pour la saison actuelle. Il y a quelques Allemands, public qui n'est pas forcément des plus fréquents généralement. Les Hollandais également. Et on a l'impression, avec l'année dernière, que le public français s'est davantage intéressé. On a davantage de public français et notamment des Charentes et de Gironde. Donc là, voilà, la Nouvelle-Aquitaine apparemment a, semble-t-il, boosté le tourisme en Périgord et au musée.
Et autrement, rien de particulier. Les gens acceptent de se plier aux gestes barrières.
Oui, pour le moment, nous n'avons pas eu, moi qui suis également de billetterie, nous n'avons pas eu de personnes, de visiteurs réticents au pass sanitaire, ni même à porter le masque. Bon, bien sûr, de temps en temps, le masque tombe, il tombe sous le nez, bon, un petit peu de rappel à l'ordre, mais rien de...
Pas de discipline. Vous avez aimé cette expérience qui est en train de se terminer ?
Bien sûr, oui. Mais travailler dans un musée, c'est toujours... Bon, moi qui fais des études d'histoire de l'art, c'est toujours quelque chose d'intéressant, d'enrichissant, de discuter avec les visiteurs, de s'arrêter. On a, voilà, en travaillant ici, on a le temps de s'arrêter sur une œuvre, de la regarder en détail, de tenter de l'interpréter... Et puis d'un seul coup, de la mettre en rapport avec une œuvre qu'on a déjà vue en cours, ailleurs, dans notre musée, on a le temps.
Alors c'est une bonne transition pour nous permettre de revenir à vos études. Votre avenir, vous le voyez comment ? Est-ce que vous êtes à un point de vos études où vous allez devoir vous spécialiser ? Quelles sont les orientations qui se présentent à vous, justement, dans la poursuite de ces études d'histoire de l'art ?
Alors je suis en master, je vais rentrer plutôt en master 2, en deuxième année de master. Donc j'ai déjà commencé à me spécialiser moi sur les arts décoratifs et notamment le mobilier, mais pour être plus précis le mobilier du 18e. Et après donc voilà, moi je suis plus intéressé par travailler sur les œuvres en elles-mêmes qu'en médiation. Le public bien sûr est une chose très intéressante, mais je préfère... chercher sur les œuvres, monter des expositions, tout ce qui est assistant de conservation. Et pour moi, quelque chose d'un peu plus intéressant. Et par contre, être conservateur de musée, donc au sommet de la hiérarchie, m'intéresse moins, étant donné qu'aujourd'hui, c'est plus, j'ai envie de dire, du management et de l'administratif. Et moi, je veux garder ce contact, ces études d'historien de l'art, vraiment... C'est quelque chose qui me tient à cœur et voilà, rester au contact de l'œuvre. Et non pas être enfin.
Alors il faut devenir commissaire priseur spécialisé.
Alors pour être commissaire priseur, c'est encore autre chose, c'est d'autres études. Enfin bien sûr, il faut faire l'histoire de l'art, mais il faut faire aussi du droit. Après, bon, c'est aussi sur concours. Mais le problème de commissaire priseur, à mon goût, c'est que pour être spécialisé, il faut déjà être commissaire priseur. Et on peut aussi bien vendre des voitures. Que du mobilier ou un magasin qui a coulé.
Tout n'est pas intéressant, voilà. Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire dans les années qui viennent ? Est-ce que vous allez entreprendre une thèse ? Est-ce que vous allez tout de suite chercher du travail ? Est-ce que vous allez chercher du travail en France, à l'étranger ? Quels sont vos projets ? On veut savoir.
Alors, moi, je souhaite m'arrêter en master et ensuite passer les concours.
Préciser à nos auditeurs ce que vous entendez par concours.
Alors pour rentrer dans la fonction publique, donc les musées majoritairement en France sont publics, qu'ils soient propriété d'un département ou propriété de région ou de l'État, ou même d'une mairie, d'une municipalité. Donc c'est sur concours, le concours territorial majoritairement.
En dehors des musées, vous avez des concours. Quel type de concours avez-vous ? Alors, par exemple, je pense au mobilier national dont nous parlait tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un concours pour rentrer au mobilier national ?
Je ne me suis pas encore trop penché sur la question. Même si c'est vraiment un site ça ou un musée d'art décoratif qui, pour moi, m'intéresserait beaucoup. Étant donné la richesse de leur collection et l'étendue également des époques dont leurs réserves sont remplies.
Donc là, vous avez quand même plusieurs pistes à explorer. En dehors des concours, du concours conduisant à la profession de conservateur, qu'est-ce qu'il y a comme autre piste à suivre pour lesquelles il faut passer par des concours ?
Bon, alors assistant de conservation, mais après, ça regroupe, c'est un grand concours, j'ai envie de dire, qui regroupe plein de postes différents, donc aussi bien en médiation, chargé du public, chargé des œuvres, des relations publiques également du musée, donc pas uniquement le public. Il faut attirer des mécènes pour qu'un musée vive, pour qu'il puisse faire restaurer des nouvelles œuvres ou en acquérir également nouvelles.
C'est un aspect qui doit être terriblement compliqué pour les conservateurs. Alors c'est les conservateurs ou les assistants de conservation qui s'occupent de ça ?
Oui, bien sûr. Un musée, c'est comme une entreprise. Hein. Il faut aussi bien des comptables que, j'ai envie de dire, du personnel pour accueillir le public, mais aussi pour conserver les œuvres.
Oui, l'argent ne tombe pas du ciel. Voilà. Alors justement, je suis frappé maintenant, en voyant les affiches des expositions des grands musées, de voir les logos des mécènes qui s'alignent au bas de ces affiches, et il y en a de plus en plus. Est-ce que ça veut dire que le recours au financement d'État s'amenuise ?
Oui et non. C'est aussi que ces entreprises bénéficient de réduction d'impôts en faisant de tels mécénats. Et ça peut être très intéressant pour elles d'acquérir des œuvres, de les déposer, de prêter des œuvres également dans les musées ou d'en restaurer. Ils peuvent vraiment dégraisser leur taux d'imposition de façon importante. Bon, à hauteur, bien sûr, à une certaine hauteur, mais c'est très, très intéressant pour eux. Donc ils le font aussi pour leur image, ça leur permet de montrer qu'ils participent à la vie culturelle. Et puis voilà, quand ce sont des grands horlogers qui aident à la restauration d'une pendule précieuse, ça va avec.
Le public aussi est sollicité. Moi, j'ai une épouse qui paye régulièrement pour la restauration d'objets particulièrement magnifiques et qu'il faut préserver.
Ah ben c'est le but, hein. Et puis de tout le temps ça a existé, des mécènes, voilà, on parlait tout à l'heure d'Alphonse de Fleuriot qui a donné des œuvres qu'il a acquises lors de ses différents voyages en Océanie, en Asie et en Afrique. Aujourd'hui, il est plus compliqué d'acquérir des œuvres d'art, quel que soit, le prix augmente assez rapidement, les prix sont assez élevés. Et donc, pour participer à la vie culturelle, il est parfois plus facile d'aider à la restauration. Et un musée ne peut pas forcément tout acquérir, parce qu'il n'a pas... si vous offrez à un musée qui n'a pas d'horloge, une horloge, ça va un petit peu dénoter dans les collections. Il faut davantage l'offrir à un musée qui a déjà une collection de pendules. Et donc, dans ce cas, aider le musée en l'aidant à restaurer ou à acquérir des œuvres dont les collections sont déjà... On a déjà des exemplaires.
Et à propos des collections d'art dit primitif, qu'est-ce que vous pensez de la polémique actuelle, des arts primitifs qui sont devenus des arts premiers maintenant, et qu'est-ce que vous pensez de la polémique qui a cours en ce moment sur la restitution des œuvres, en particulier africaines ou océaniennes, ou asiatiques bientôt peut-être, qui sont arrivés dans des musées à la faveur de l'aventure coloniale européenne, et puis que les pays d'origine réclament maintenant, les pays d'origine réclament restitution.
Alors, c'est un débat qui touche actuellement les historiens de l'art, mais bon, il faut savoir que ces œuvres, voilà, ont été acquises de façon, aujourd'hui, qui nous paraîtrait totalement illégale. Bon, certains vous diront que ce sont des prises de guerre et que les musées sont remplis de prises de guerre, hein. Mais d'autres sont le fruit de vols, de ventes forcées, de saisies. Les peuples et ethnies dont les statuettes sont issues ont été méprisées. Il suffit de voir les découpages de l'Afrique pour se rendre compte que tout a été fait à coup de règles et d'équerres. Que ces pays, nous on appelle ça des œuvres d'art. Bon, le terme d'art premier ou d'art primitif n'est pas bon. Pour eux, ce ne sont pas de l'art. Ce sont des objets apotropaïques, des dieux vivants, des représentations, des esprits. Des objets du quotidien, voilà. Et en les exposant, on les a nettoyés, on a retiré toute la patine spirituelle qu'il y avait dessus, un petit peu magique également. On leur a retiré le symbole dont ils étaient porteurs, alors que ces peuples, justement, les cachaient, les utilisaient, ne les sortait que pour certaines cérémonies. Et dans le même temps, on s'émeut de voir, sans doute rendre, on a déjà rendu quelques œuvres à l'Afrique, notamment un sabre, le sabre d'âge au Maltar.
Le sabre du roi Béanzin.
Alors non, c'est le trésor, alors c'est deux choses différentes. C'est le trésor du palais royal du roi Béanzin au Bénin, et le sabre de Hadj Omar Tall au Sénégal. Alors ce roi était empereur de l'empire tout couleur, un empire malien, et on le rend au Sénégal parce que la famille d'Oumdaj Oumaltar, je ne sais pas très bien prononcer son nom, mais vit aujourd'hui au Sénégal. Donc il se pose aussi cette question de à qui rendre.
Un futur conflit entre le Sénégal et le Mali pour s'approprier le sabre de El Hadj Omar.
Mais après, on s'émeut de rendre des œuvres à l'Afrique, mais pourtant on a bien rendu des œuvres, des livres à la Corée. La France avait volé, pillé, voilà, un temple coréen.
C'est une histoire presque sans fin, parce qu'avant que les Britanniques rendent les frises du Parthénon aux Grecs, je pense qu'il coulera encore beaucoup d'eau sous les ponts.
Oui, c'est une histoire sans fin, bien sûr, mais il faut en parler. Je m'étonne tout le temps de voir que la restitution de ces manuscrits à la Corée n'a pas posé de problème. On a presque félicité cette restitution. En même temps, on vendait des TGV, donc est-ce que ce serait pas rendre des bouquins contre un train ? Et alors qu'on s'émeut de rendre quelques objets au Sénégal ou au Bénin, au Tchad, alors que ces peuples ont été...
En alléguant le fait que leur conservation sera mal assurée.
Mais ça fait partie de la vie de ces œuvres d'art. Pour eux déjà, ce ne sont pas des œuvres d'art, il ne faut pas les penser comme telles. Après, bon, on ne va pas leur imposer notre vision de ces objets, alors que ce sont eux les vrais concepteurs, les vrais détenteurs, on ne va pas leur imposer, nous, ce qu'on leur attribue dessus. C'est à eux d'utiliser et de savoir quoi faire, comment rendre honneur à leur culture, à leur patrimoine.
Mathieu, le temps file, et je vais vous poser la dernière question que je pose rituellement à mes invités. Est-ce qu'il y a une vie après l'histoire de l'art ? Qu'est-ce qui vous passionne en dehors de l'histoire de l'art, en dehors de l'art en général, du mobilier du XVIIIe siècle et du Moyen-Âge en particulier ? Est-ce que vous pratiquez un sport ? Est-ce que vous avez un violon d'Ingres, comme on dit ?
Alors bien sûr, bon, moi je vis essentiellement pour la culture, par la culture, sous toutes ses formes qu'elles soient. Je vais aussi bien au cinéma, au théâtre qu'au concert. Et au musée. Et de temps en temps, bien sûr, il faut le vider l'esprit. Donc, je fais également des balades à vélo, de l'escalade également. Bon, ça permet de voir d'autres choses, de penser autrement et de s'écouter aussi le temps, quoi. Le temps passé à réfléchir sur l'art, qui vraiment prend beaucoup de temps et sans fin, permet également de souffler. Et c'est une grande nécessité.
Si je vous demandais maintenant, avant de nous quitter, quel est le musée du monde que vous aimeriez visiter demain, si vous en aviez la possibilité?
Oh, je pense que ce serait le musée...
L'Ermitage.
Non, ce serait le musée, un musée à Mexico qui présente les œuvres aztèques, civilisation aztèque. Et je méconnais complètement cet art, mais on nous l'a toujours très bien vendu. Un des rares amis mexicains, le seul que j'ai, me l'a très bien vendu également. Et ça donne vraiment envie, en plus une muséographie tout à fait contemporaine, tout à fait adaptée à ce type d'œuvre, et qui est toute à la fierté voilà, de ce peuple qui a été également décimé.
Pillé, décimé, et dont les œuvres ont été dispersées, et se retrouvent encore aujourd'hui régulièrement dans les ventes aux enchères d'art tribal. Sur cette conclusion un peu triste, merci beaucoup Mathieu, et bonne chance pour vos études.
Je vous remercie pour ce moment. J'espère avoir intéressé vos auditeurs à venir visiter le musée du Périgord, mais également les autres musées municipaux dont la France regorge.
En tout cas, nous vous donnons rendez-vous dans quelques années, quand vous serez conservateur, assistant conservateur, médiateur d'art.
Rendez-vous pris.
Merci beaucoup. Au revoir.
Le mari de Marie-Vonne était mon amant. Quelquefois je m'en étonne encore maintenant. Au début tout feu tout braise, il était gentil. Quand il se mettait à l'aise, il refaisait le lit. Il me disait tu es belle après comme avant. Il descendait la poubelle en repartant.
C'était Tranche de vie, une émission proposée par Jean-François.
Sa Marie-Yvonne, il me l'avait caché. La la la, petit bonhomme, comme on avait bien menti. Ma femme est une matrone, il m'avait dit.
Le mari de Marie-Vonne était mon amant, mais il m'appela Bobonne au bout de pas longtemps. Puis je rencontrai sa femme qui me dit merci, depuis qu'il vous a dans l'âme, il ne vient plus.